Bonjour à tous et à toutes et bienvenue au podcast de la rédaction de Game Info. Cette semaine, je serai en compagnie de Mordren.
Salut.
De Ben.
Salut.
Et d'ATH.
Bonjour à tous.
Au sommaire de l'actualité cette semaine, nous commencerons par un certain Wartile. On enchaînera ensuite sur Nioh. Du côté des projets amateurs, on évoquera l'annulation de l'un d'entre eux. En ce qui concerne les éditeurs, nous évoquerons les grands absents de l'E3 2016. Du côté de Steam, nous parlerons du changement de politique de Valve en ce qui concerne les bundles. Nous évoquerons également l'avenir, et oui, l'avenir selon Microsoft. Microsoft qui a évoqué cette semaine sa vision en ce qui concerne les consoles, mais aussi le PC. Et enfin, j'ai envie de dire, nous terminerons avec la news Ben, parce qu'il y a bien que lui ça intéresse, à savoir un certain No Man's Sky.
Je pense que Mordren est un petit peu intéressé aussi.
Sans oublier notre jeu du moment, un jeu sur lequel j'ai passé plus de 130 heures, Xenoblade Chronicles X.
Je crois que c'est une exclue mondiale même.
Ah ouais, non mais attention, on est en avance et tout, Game Info, toujours à la pointe de la faune, n'est-ce pas? Allez, on commence donc avec Wartile, Mordren.
Ouais, alors Wartile, qu'est-ce que c'est? C'est un projet Kickstarter qui a été lancé par un studio danois, qui se propose en fait de porter les codes du jeu de plateau à figurines dans un jeu vidéo, avec un twist, et non des moindres, puisqu'il l'adapte ça non pas en jeu à tour par tour, mais en jeu en temps réel. Donc comme son nom l'indique, ça fonctionne sur un système d'hexagones, sur lesquels vous placez des figurines que vous choisissez en début de partie.
Sur des maps particulièrement stylées, je tiens à dire.
C'est ça, des maps qui sont vraiment, vraiment très cool avec du relief et tout. Et donc ça fonctionne comme ça, vous placez donc, je crois que c'est 5 figurines en début de partie. Et le but évidemment est de défoncer la gueule des autres figurines, sachant que sur les maps il y a également des objets à looter. Et en plus de ça, vous avez un deck de capacités qui sont donc représentées par des cartes. Des cartes que vous pouvez récupérer, collectionner à la manière de vos figurines au long des missions. Le concept est plutôt cool. Le Kickstarter se finance en livres sterling. Il en demande 55 000 actuellement. Au bout de 3 jours, il en est à 7 250 et un petit peu plus de 500 contributeurs. Actuellement, KickTrack prédit que le jeu ne sera pas kickstarté. Et voilà, on en parlait un petit peu en off tout à l'heure, et a priori, ça m'étonnerait pas que ça soit le modèle temps réel qui fasse un petit peu peur aux gens.
Bah, moi, je pense surtout en fait qu'il n'y a pas grand monde qui en a parlé, surtout.
Ouais.
Pourtant, ce que tu m'as dit, ils ont envoyé des comics Geek Press, puisque tu en as reçu un toi-même.
Ouais, j'en ai reçu, ouais.
Donc, c'est pas faute d'avoir essayé de communiquer même avec la presse française, apparemment. Mais c'est vrai que le temps réel, je pense que ça perturbe les gens, mais quand tu vois en détail comment fonctionne le système, je pense que c'est pas si mal, en fait. Parce que comme t'as un cooldown sur les unités, finalement, t'as quand même une phase de réflexion, et ça reste un jeu quand même assez dynamique, quoi. En tout cas, moi, je trouve l'idée pas mal. En plus, il y a une vraie gestion du relief, apparemment, c'est-à-dire que ça te donne des avantages, etc.
Ouais.
Donc, vraiment, moi, c'est un jeu que je trouve super cool. Ce qui m'a surtout laissé sceptique, pour ma part, c'est le budget qui est demandé.
Oui.
Faut bien dire qu'il est ridicule. Alors après, vu la vitesse à laquelle ça monte, on peut dire qu'ils ont pas tort, hein. Mais à mon avis, ils vont vite passer par la case Early Access. Et dans tous les cas, je sais pas ce que tu en penses, mais je sais pas, quand j'ai vu le concept, je me suis dit, oula, il y a moyen de faire du pognon avec ça, quoi.
Ouais.
Figurines, cartes, enfin, voilà. Enfin, après, je sais pas leur modèle économique, mais il y a moyen de faire des trucs. Hein.
Bah ça, et puis ne serait-ce que si tu restes dans le jeu, on peut parler d'extensions, de campagnes différentes. Enfin, il y a vraiment beaucoup de choses à faire. Et moi, personnellement, ça me parle beaucoup parce que j'aime bien tout ce qui est jeu de figurines et je vais m'intéresser d'un petit peu plus près à ce jeu. J'ai déjà regardé pas mal de gameplay. Et, en tout cas, moi, ça m'intéresse.
Voilà. Bon, malheureusement, j'ai bien peur que le Kickstarter soit compromis. En tout cas, j'ai jamais vu un Kickstarter commencer ainsi mal et se faire financer par la suite. Alors après, bon, si vraiment ils arrivent à faire passer le mot et que, par exemple, il y a un gros YouTuber qui stream le jeu, bon, ça peut le faire parce qu'il y a une démo, hein, je rappelle. Personnellement, j'ai pas été en 10 jouets, mais il y a une démo. En tout cas, jetez-y un œil parce que je pense que ça vaut le coup. J'espère qu'en tout cas, s'ils échouent sur Kickstarter, ils passeront quand même par la case Early Access parce que c'est très, très probable prometteur et ça a l'air assez avancé. J'adore le rendu des figurines, enfin les animations, tu sais, ça fait un peu animation en pâte à modeler, tu vois, enfin c'est vraiment stylé, je trouve, quoi, comme projet. Bon, mon cher ATH.
Ouais.
On va maintenant parler d'un certain Nioh, n'est-ce pas? Un jeu qui nous a fait de l'œil, déjà parce que le héros ressemble à Gérald Rive, mais aussi parce que ça ressemble un peu à un Dark Souls chez les samouraïs, quoi. Est-ce que tu peux nous en dire plus?
Ouais, bien sûr. Alors, en fait, je vais vous parler d'une vidéo qui a été publiée récemment. Sauf que c'est une vidéo qui date, en fait, du TGS 2015. Donc, c'est une vidéo qui fait environ 6 minutes. C'est une version pré-alpha, en fait. Comme tu l'as très bien dit, ça rappelle du Dark Souls et aussi un peu du Onimusha.
Ouais.
Avec tout ce qui est invocation magique et surtout que ça se passe dans un univers Japon féodal. Après, c'est vrai que le jeu, quand tu vois comme ça en vidéo, il paraît daté parce que voilà, c'est un jeu qui est très très en retard parce que à la base il était annoncé au début du lancement de la PS3.
Et ça se voit que c'est un jeu PS3, hein. Ça se voit tout de suite.
On dirait que c'est un jeu PS3 en remaster, tu vois, qui ressort en fait. Et donc il y a beaucoup de choses qui font penser à Dark Souls, par exemple le fait que tu peux te faire attaquer par un autre joueur, tout ce genre de composantes là qui sont là, surtout aussi le jeu qui peut être assez difficile face notamment au combat de boss où tu peux te faire tuer en 2-3 coups. Donc moi je sais pas ce que vous en pensez, mais ça m'intéresse quand même, même si c'est vrai que bon l'aspect technique c'est pas son point fort quoi.
Alors ce qui me fait peur si tu veux, au-delà de l'aspect technique qui est vraiment daté, c'est-à-dire que vraiment les textures par exemple par moment, enfin à un moment il y a un passage où il est entre dans une espèce de crevasse, tu vois, et les textures sur les rochers sont dégueulasses, mais enfin vraiment début PS3 quoi. Mais au-delà de ça, je me dis ce qui va être surtout compliqué, là où je l'attends au tournant, c'est que c'est bien d'avoir un style Dark Souls, entre guillemets, mais Dark Souls, ce n'est pas que des combats, quoi. C'est aussi quand même un level design hyper léché, un peu en mode Metroidvania, mais pas vraiment, enfin, voilà, quoi.
C'est une ambiance aussi. Enfin, moi, j'ai pas été spécialement frappé par l'ambiance de Nioh. Hein.
Ah bon? Ben, moi, justement, ouais. Je trouve que c'est le truc le plus réussi dans la vidéo. Bon, après, moi, je suis fan de tout ce qui est samouraï, machin, bidule, donc forcément... dès que tu me montres un mec en armure de samouraï qui se bat contre un démon, je suis tout de suite là. Voilà. Forcément, ça me parle plus. Mais après, bon, voilà. Bon, c'est les goûts, les couleurs.
Moi, je trouve que l'aspect le plus réussi de la vidéo, pour moi, c'est les combats, en fait, qui ont l'air vachement dynamiques par rapport à un Dark Souls. Et en fait, c'est là où on voit vraiment le côté Onimusha qui ressort. Avec, voilà, c'est tout cette esquive et le fait que tu peux te faire attaquer par plusieurs adversaires en même temps. Donc il y a une notion de timing qui est importante à prendre en compte, le placement vis-à-vis des adversaires, et puis tu peux enchaîner les combos si tu les places bien au bon moment, et ça peut aussi faire penser également à Ninja Gaiden quoi dans le style. Après je pense que ça sera pas aussi hardcore qu'un Ninja Gaiden, parce que quand même dans en matière de beat'em all ils sont assez coriaces quoi.
Aussi ce que j'ai trouvé assez stylé c'est la magie.
Ouais.
C'est pas la magie à la Dark Souls où t'envoies des pets sur la gueule des mecs. Non, là c'est des gros trucs quoi.
Après ça, au début en fait ça fait une sorte d'invocation et après c'est l'arme qui prend l'élément. Par exemple, on voit un loup qui est en feu et au début il lance une attaque spéciale en fait sur les ennemis et après on voit l'épée qui s'enflamme. Donc il y a ce genre de choses là et puis on le voit se battre contre des villageois. Et il y a aussi des Oni, donc ces démons japonais qui apparaissent. Ça peut être intéressant de mélanger les deux, les combats au sabre pur et des combats avec les démons, voilà.
Bon, en tout cas, il y a l'air d'avoir aussi une sacrée variété d'armures. Il y a un passage où ils s'amusent à montrer toutes les armures qu'ils ont, etc. Elles sont vraiment putain de stylées en plus. Bref, voilà. Moi, personnellement, c'est un projet que je vais continuer dessus du coin de l'œil, même si techniquement, ça me plaît pas trop. J'adore la direction artistique. J'aime beaucoup ce que je vois en termes de système de jeu. Franchement, c'est à suivre, en tout cas. En espérant qu'il sorte chez nous, parce que c'est pas sûr. Hein.
Ouais, enfin, le jeu est toujours prévu pour 2016 au Japon, pour l'instant. Comme je l'ai dit, c'est une version alpha qu'on a pu voir, donc peut-être que d'ici la fin de l'année, ils ont amélioré un petit peu la chose.
Déjà mettre des textures qui aient un peu plus de gueule quand même,
voilà.
Parce que voilà quoi, c'est...
Et je pense pas qu'il faudra s'attendre à une claque graphique, quoi. Donc.
Oh oui, non, mais ça c'est sûr.
Ouais.
Bon, tu vas toujours garder la parole à TH, parce qu'on va parler d'un remake de fan qui a été annulé. Bon, en même temps, j'ai envie de dire, est-ce une surprise?
Bah non, pas du tout, c'est... Donc c'était le projet Shadow Mojis. En fait, le but, c'était de refaire le premier Metal Gear qui était sorti sur PS1 avec des graphismes actuels. Et puis là, on apprend assez récemment que Konami, comme on s'y attendait, a annulé le projet. on va dire que c'est pas une surprise, quoi.
D'une manière générale, les éditeurs japonais, je veux dire, sont pas très cool de ce genre de choses. Alors, Konami, encore plus, que je rappelle quand même, Konami, c'est ceux qui avaient fait capoter l'espèce de film fait par des fans en mode Metal Gear. Enfin, voilà, quoi, c'est une boîte qui est vraiment pas proche de sa communauté, quoi.
Ouais, enfin, surtout, je pense pas que... Enfin, je me demande comment... Cette personne qui a voulu faire le remake de Metal Gear a pu penser que ça allait passer?
Bah non, mais à mon avis, tu sais, c'est des gens qui font ça pour se faire un peu de pub. Ça fait un truc bien sur le CV, tu vois.
Ouais, ouais.
On a parlé de toi en plus et tout. C'est
après,
cool.
Moi, là où je trouve que Konami, c'est quand même des gros bâtards. Ça fait quand même assez longtemps qu'on en entend parler de ce projet. Et voilà, ils ont quand même laissé le mec travailler
là-dessus.
C'est
sa première vidéo.
Voilà. Et, c'est pas sa première vidéo, je crois qu'on en... J'ai dû en voir, moi, à titre personnel, 5-6.
D'accord.
Donc voilà, je pense que Konami doit être au courant depuis un petit moment et du jour au lendemain, ils l'ont dit bon bah c'est bon, t'as bien fait Mumuse avec notre jeu. Maintenant, bah non.
Stop. C'est dommage parce que par exemple quand tu vois ce que fait Bethesda avec sa communauté, genre par exemple sur Skywind, il y a une vidéo qui est sortie récemment qui montrait les progrès que l'équipe a fait sur le projet, etc. Putain quoi, les mecs ils ont fait un vrai remake de Morrowind. C'est ouais. Hyper stylé. Je ne comprends pas si tu veux qu'un éditeur se fâche comme ça avec sa communauté en fait, mais quasi systématiquement en plus quoi. Surtout que je pense que ça ne porte pas mal. Enfin, je veux dire, en général, bon, sauf si t'as une équipe de fous comme sur Skywind où ça fait des années qu'ils bossent sur un projet, tu vois, ça va pas non plus t'empêcher de sortir ton propre remake à toi qui a vraiment de la gueule. Bon, évidemment, sauf si tu sors ta compilation de merde en mode appendicé, là c'est sûr ça la fout mal. Mais bon, si les éditeurs pouvaient sortir les doigts à un moment donné, ce serait pas mal aussi quoi.
Bah après on peut penser aussi que, bah, comme Konami n'a plus Kojima dans son équipe, ouais. Un remake de Metal Gear Solid, premier du nom, ça serait la chose la plus facile à faire. Ça serait beaucoup plus simple que de faire un nouveau jeu. Le scénario est déjà écrit, les environnements sont déjà créés, etc. Donc tu reprends, si tu veux, quasiment le même jeu, et tu le fais en plus beau. Hein. Donc voilà, tu modernises un peu le gameplay, etc. Ce genre de choses-là, le plus gros du travail est fait. C'est pas comme si on leur demandait de faire un MGS6, où là, il faudrait qu'ils emploient une nouvelle équipe, ça prendrait un temps de développement assez long, plus voilà la pré-production, etc. Alors que là, non, c'est tout le travail est quasiment mâché. C'est pour ça que je pense que Konami, déjà, c'est un des points qui ont fait que ce projet n'aboutira pas, et aussi que, voilà, c'est leur licence et que tu peux pas t'amuser à faire n'importe quoi, quoi. C'est comme si demain, t'essayais de faire un jeu avec Mario, Nintendo va t'attraper, mais direct, quoi.
Ouais, les Japonais ne sont pas open à ce genre de choses, malheureusement. Allez, on enchaîne, mon cher Ben.
Ouais.
Toujours du côté des éditeurs, mais cette fois, on va parler d'Electronic Arts et d'Activision, qui seront apparemment absents d'un événement qu'on attend tous, n'est-ce pas?
Oui, exactement. On avait appris donc qu'Electronic Arts ne viendrait pas à l'E3 cette année. Ouais, et c'est un événement même pour Activision. Alors par contre, là où Activision est un peu plus malin, entre guillemets, c'est qu'ils vont quand même arriver à glisser leur Call of Duty sur le stand de Sony.
Voilà.
Donc ils seront là sans être vraiment là, quoi. On va quand même parler d'eux, mais ils se prennent pas la tête, ils viennent pas officiellement, enfin officiellement, ils viennent pas avec leur stand, mais ils vont présenter leur petit Call of Duty sur le stand de Sony tranquillement, quoi.
Bon, par contre, entendons-nous bien. Ils seront pas sur le show floor, mais on va quand même se taper leur conférence de merde.
Oui, oui, non, mais ils auront pas, voilà, ils auront pas un stand dédié.
À part Electronic Arts qui va faire sa conférence avant le 3 en fait.
Ah oui.
Oui.
Leur conférence, elle sera pas comme les autres années. Enfin, d'un côté, c'est pas plus mal, quoi, parce que leur conférence, elle sera un peu chiante à mourir.
Et surtout, il y a pas grand chose en général en dehors. Bon, ça arrive que t'aies des surprises comme Unravel, mais en général, il y a rien dedans d'intéressant, quoi. Enfin, pour nous, en tout cas.
Bah, en fait, moi, le seul jeu qui m'intéresse dans le catalogue Electronic Arts, c'est Mass Effect, quoi, Andromeda. À part ça.
Et on sait que c'est pour 2017.
Ouais. Ouais. Donc, voilà.
Par contre, l'autre bonne nouvelle, c'est qu'il y aura Tech 2. Qui a annoncé qu'ils n'allaient pas passer inaperçus, donc pourquoi pas un Red Dead. Ça serait quand même une grosse nouvelle, quoi. Ça serait.
Je suis déjà saucé.
Non mais calmez-vous, messieurs.
Non, mais c'est que de la spéculation, mais why not.
Moi, je préférerais un nouveau jeu.
Alors moi, personnellement, le 3 m'intéresse cette année uniquement pour ce que Nintendo a annoncé.
Voilà. Non, parce que avec le 3 de merde qu'ils nous ont fait l'année dernière,
c'est ça.
Ils ont plein de choses à montrer cette année.
Ils peuvent faire que mieux de toute façon cette année.
Ah bah, si les rumeurs de Enix pour fin 2016 sont effectivement vraies, ils ont potentiellement un très gros E3 à nous proposer.
Mais voilà. Nintendo, ils étaient à l'E3 2015.
Bah, ils ont fait un Nintendo Direct, mais pour l'instant, je sais pas si t'as remarqué, mais ils ont pas annoncé qu'ils seraient pas à l'E3.
Non, mais c'était un troll de ma part, parce que...
On avait bien compris, il y a TH. Au cas où il y en aurait, il y a eu un doute. Ouais, d'ailleurs, on a revu Star Fox récemment, bah, c'est toujours pas génial, enfin bref.
C'est vrai.
Ah oui, t'auras un Tower Defense fourni avec le jeu en plus. Wouhou! Enfin bref, arrêtons de troller sur Nintendo, s'il vous plaît. C'est vrai que le 3, j'attends de voir ce que va faire Nintendo. Et d'une manière générale, cette année, je pense que ça va être enfin l'année où on va avoir des vrais nouveaux projets, quoi. Enfin, j'espère. Mm. Je croise les doigts, hein. Je dis ça, mais si ça se trouve...
Bah attends, je suis sûr qu'ils vont te trouver un remake d'un jeu que les gens attendaient aussi, ils vont te faire un remake ou suite spirituelle d'une vieille licence ou un truc à la Moire Maneux, ça, je suis quasiment sûr qu'il y en aura quelques-uns dans cette veine-là qui vont être annoncés.
Mm. Bon, Modren, on va maintenant changer totalement d'univers, n'est-ce pas, puisqu'on va sur PC et qu'on parle de la nouvelle politique tarifaire de Valve vis-à-vis des bundles.
Ouais, et c'est pas trop tôt d'ailleurs, parce que à force, ça fait quand même un moment que les bundles ont le vent en poupe. C'est même d'ailleurs en train de baisser en ce moment. Et en fait, le truc, c'est qu'à force d'avoir des gens qui achètent et qui achètent et qui achètent des bundles, bah les bibliothèques Steam se remplissent. Je suis un des premiers intéressés. Et le truc, c'est qu'au bout d'un moment, en fait, Valve s'est rendu compte que bah, y a certains bundles qui marchent pas trop, parce qu'il y a certains jeux dans les bundles qui sont déjà possédés par les utilisateurs de Steam. Et ils se sont rendu compte que bah, forcément, un joueur qui a déjà certains jeux dans un bundle, il va pas acheter un bundle, parce que c'est plus intéressant pour lui en termes de tarifs. Et donc du coup, ça y est, ils ont décidé de réformer un petit peu leur politique de bundle, et... Il propose à tous les joueurs qui ont déjà un ou plusieurs jeux proposés dans un bundle que le prix du bundle soit baissé en fonction du nombre de jeux qu'ils possèdent.
Un peu ce que fait Google Games depuis un moment déjà.
Donc voilà, c'est pas trop tôt. Je vous avoue que j'ai pas eu d'exemple encore de combien le prix baisse en fonction du nombre de jeux que tu possèdes, mais en tout cas, sur le principe, c'est tout bénef.
Alors après, j'ai envie de poser une question, est-ce que ça va vous inciter à prendre des bundles malgré tout?
Bah ça, encore une fois, ça dépend du prix, quoi.
Ouais, mais enfin, je sais pas, est-ce que vous avez encore envie d'acheter des jeux au kilo, alors que vous avez déjà une chier de jeux dans votre bibliothèque Steam, que vous avez pas fini, que vous devez faire? Enfin, moi, personnellement, en ce qui me concerne, ça ne change rien, mais...
Moi non plus. Alors,
en fait, ça dépend ce qu'il y a dans le bundle. Moi, l'exemple que j'avais quand j'en parlais avec Kelma la semaine dernière, c'est, par exemple, moi, les bundles Valve, il y en a quasiment à chaque solde Steam, mais à chaque fois, je le prends pas, et pourtant, il m'en manque plein, parce que j'ai déjà Portal 1 et 2. Et à chaque fois, je le prends pas alors que j'ai jamais joué à Half-Life 2. Et pour le coup, si le bundle baisse de façon drastique en enlevant Portal 1 et 2, ça pourrait m'intéresser.
Ouais, mais est-ce que t'auras le temps d'y jouer, Mordren? Parce que tu me dis ça, mais si tu veux, je vois le temps que tu as, tu passes ta vie sur Ark, tu vas y jouer quand?
Après, c'est pas la question. Là, je te parle simplement du bundle. L'achat, de toute façon, c'est quelque chose de très personnel. Si j'achète des trucs, c'est je sais que quoi qu'il arrive, un jour, j'y jouerai, tu vois. Mais c'est pas vraiment la question.
Bah, enfin, si, c'est quand même le cœur de la question. Pour moi, il pourrait laisser la politique tarifaire telle qu'elle est actuellement. Je vois le nombre de jeux que j'ai à faire. Je me dis, mais... Attends, je vais acheter un bundle de, je sais pas, admettons, il y a 3 jeux qui m'intéressent dans l'eau, mais quand je vais y jouer à ces jeux, quoi? Personnellement, le facteur numéro 1 qui me bloque, c'est la petite voix dans ma tête qui me dit « Non, mais du con, tu sais très bien que t'as pas le temps d'y jouer, quoi. Arrête, arrête! Non, 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 ne clique pas sur ce bouton, non !»
C'est pareil pour moi. Au départ, c'est vrai que quand il y a eu notamment un Humble Bundle qui a commencé à sortir ses bundles, j'en avais pris quelques-uns parce que bah c'était super intéressant, que ce soit au niveau tarif, au niveau du nombre de jeux, et puis il y avait des jeux intéressants. Et en fait, je me disais toujours « Voilà, c'est cool, même s'il y a que 2 jeux qui m'intéressent, j'aurai le temps de faire les je ferai les autres plus tard et tout. » Et puis je m'aperçois qu'au final, je les démarre jamais, parce qu'il y a toujours des jeux plus intéressants qui viennent de sortir, qui m'attire plus, donc, et que j'ai pas beaucoup de temps. Donc c'est vrai que moi je suis un peu comme toi. Aujourd'hui, les bundles, ça ne m'intéresse plus du tout parce que je n'ai juste pas le temps de faire tous ces jeux là quoi. Je me concentre déjà à essayer de faire les jeux qui me plaisent dans une année. Si en plus je dois faire les jeux que je connais pas juste pour les découvrir, enfin j'ai pas le temps quoi. Vraiment.
Bah, disons que après tu peux avoir le temps pour un jeu, tu vois, c'est à dire que t'as ce jeu là qui est en solde, tu sais que là maintenant tu as le temps,
ouais,
tu l'achètes,
oui, mais tu prends pas un bundle.
Voilà. Personnellement, en tout cas, c'est pas du tout le prix qui me bloque, quoi. Ok. Nous allons donc parler maintenant de Microsoft, qui, disons, défraie la chronique cette semaine avec deux news, n'est-ce pas ? Enfin, deux news qui finalement peuvent se résumer en une phrase, c'est-à-dire l'unification de leur écosystème. Parce que d'un côté, nous avons donc monsieur Phil Spencer, je crois, qui parle du fait de faire évoluer les consoles. Là, vous vous rendez compte, les consoles, vous en achetez une, elles durent 5 ans, durant ces 5 années, ben, il n'y a aucune évolution technique, etc. Et puis ça y est, elles meurent et on passe à l'autre génération. Non, non, messieurs, dames, nous, on veut changer tout ça, on veut révolutionner, et on va vous proposer des PC... non, enfin, évidemment, il le dit pas comme ça, hein, mais en gros, c'est l'idée, quoi. C'est-à-dire que ils se sont dit que bah ça serait bien de faire évoluer les consoles. Alors maintenant, quand les gens leur demandent, mais vous voulez faire ça comment ? À part filer un tournevis aux gens pour qu'ils changent leur carte graphique, là ils ont pas de réponse. Mais en tout cas, ils veulent faire évoluer leurs consoles. Et de l'autre côté, on a un autre problème, c'est que Microsoft est en train de se mettre à dos, comme pratiquement à chaque nouvelle OS, les joueurs PC. Enfin, les joueurs PC. Pas que les joueurs PC, parce qu'il faut savoir que il y a le boss d'Epic Games qui a fait une sortie et qui a dit en gros que Microsoft, grosso modo, partait en guerre contre l'industrie PC parce que ils étaient en train de verrouiller leur OS. Et pour que un boss d'une boîte aussi importante que ça fasse une sortie comme celle-là, c'est que, à mon avis, il a des raisons de le faire parce que sinon, je veux dire, il fermerait sa gueule, quoi. Mais finalement, est-ce que c'est étonnant ? Non, pas vraiment, parce que c'est ce que Microsoft essaie de faire plus ou moins à chaque nouvelle OS. C'est-à-dire que ils essaient de se la jouer Apple style en mettant en avant leur store. Là, maintenant ça s'appelle Windows Store, avant ça s'appelait Windows Live. Et donc, en gros, l'idée, si vous voulez, c'est que Microsoft a sorti une série de nouvelles fonctionnalités sous Windows, qui ne sont utilisables, je crois d'ailleurs, qu'à partir de Windows 10. Que apparemment, de ce que dit le boss d'Epic Games, ça va permettre à Windows de verrouiller son OS, parce que si tu utilises ces fonctionnalités, t'as tout un tas de contraintes qui vont avec, du genre tu ne sors pas un patch sur ton jeu quand tu veux, faut que tu aies l'autorisation de Microsoft pour le faire. Donc ça implique derrière que Microsoft verrouille le truc et que bah du coup quand tu veux sortir ton jeu sur un autre store, c'est pas possible, ce genre de choses. Enfin voilà. Donc voilà le monde selon Microsoft, j'ai envie de dire. D'un côté des consoles qui ressemblent de plus en plus à des PC et de l'autre des PC qui ressemblent de plus en plus à des consoles. Est-ce que c'est pas magnifique ?
Non, c'est triste parce qu'en fait une console, ça s'appelle une console parce que tout simplement c'est comme ça depuis le début et je vois pas pourquoi ça changerait.
Ouais, mais est-ce qu'il y a une bonne est-ce que tu ne penses pas qu'il pourrait y avoir une bonne raison pour que ça change ?
Bah non, parce que si les gens veulent upgrader leur machine, ils achètent un PC, s'ils veulent une console, ils achètent une console, c'est tout simplement.
Ouais, mais si les gens veulent quelque chose sous la télé qui soit upgradable.
Bah ils achètent un PC et ils le rebranchent à la télé, tout simplement. C'est pas difficile de brancher un câble HDMI à la télé pour pouvoir jouer à tes jeux PC, surtout que maintenant si tu veux jouer à la manette, il y a beaucoup de jeux qui prennent en compte ce périphérique là, donc voilà.
Bah c'est ce que Steam est en train de faire avec ses Steam Machines, hein.
Ouais, bon, sauf qu'ils le font très très mal, mais...
Oui, non, mais ça c'est un autre problème, mais bon, ils essaient de le faire en tout cas.
Après, je veux dire, en plus de ça, pour moi, ça poserait un problème qui est plus grand que ça, c'est-à-dire, Quantum Break sort sur la Xbox One, et puis t'as la version Xbox One 2.0 qui sort, mais après, quand il y aurait Quantum Break 2 qui sortirait sur Xbox One 3.0, peut-être que la première version de Xbox One ne serait pas assez puissante pour le faire tourner, donc ça poserait des problèmes aussi vis-à-vis de ça, quoi.
Enfin, pour moi, le plus gros problème de ce genre de système, c'est la lisibilité, en fait. C'est-à-dire que comment tu fais pour vendre ça à un public qui déjà est pas foutu de comprendre que la Wii U, ce n'est pas la mablette ? Je caricature, mais en gros, c'est ça, quoi. C'est-à-dire que t'as une offre qui est pas du tout lisible, c'est pas un public technophile. Comment tu fais pour vendre ce genre de device à un public qui est pas du tout porté sur ça ? Alors après, on me citera les téléphones, mais les téléphones, c'est pas la même chose. Ils sont financés, enfin, par les opérateurs, entre guillemets. C'est-à-dire que vous payez un crédit pour les renouveler tous les 6 mois, et du coup, c'est pour ça que les gens achètent un téléphone, entre guillemets, gratuit tous les 6 mois, quoi. Puis voilà, c'est pas du tout le même modèle économique qu'une console où là c'est toi qui va dans le magasin, qui sort 200 balles pour acheter ton extension sur ta console quoi. Ouais. Et puis d'ailleurs, tu fais comment pour upgrader ta console sans que ça devienne super pénible? Enfin, il y a toute une question sur l'écosystème qui est.
Il y a des choses
quoi.
Qui sont faciles à faire. Si c'est changer, par exemple, de la RAM, tu peux mettre un petit cache et juste l'enlever. Mais c'est sûr, ouais, que s'il faut changer une carte graphique, surtout dans les consoles, généralement, elles sont soudées sur les cartes mères parce que pour pas que ça prenne trop de place, aujourd'hui, c'est difficilement réalisable, quoi.
À moins qu'ils sortent une deuxième version de la Xbox, justement, qui permet d'être upgradable.
Ah, ben, ça serait, je pense que ça serait sur la prochaine génération si. Ah,
mais là, ça pose problème, du coup.
Voilà.
Ça pose le même problème que la New 3DS, en fait. C'est-à-dire que tu auras une offre de software qui est limitée à la nouvelle version de la console. Enfin, je pense que en magasin, c'est pas très compréhensible, encore une fois, pour l'utilisateur lambda, quoi.
D'ailleurs, on voit que, franchement, la New 3DS, là, ça marche du tonnerre, hein. Il y a beaucoup de jeux qui sont sortis. Je crois qu'il y a que Xenoblade Chronicle qui vise vraiment que tu peux jouer que sur la New 3DS. Ouais. Après, les autres, par exemple, je sais que Monster Hunter, il tourne mieux sur la New 3DS que la 3DS de base, mais au moins tu peux y jouer sur ta 3DS quoi.
Bah même mais ils sont pas fous, les éditeurs ils vont pas se priver de.
Bah oui, c'est bah, parc, mais ça, qui existe ça, c'est déjà. Clair et net. Je sais pas combien de Xbox One sont vendus dans le monde. Je crois la dernière fois que j'ai vu c'était aux alentours de 15 millions. Ils vont pas dire à 15 millions de personnes d'aller se faire foutre et pour se concentrer sur les 500 000 personnes qui vont l'acheter des One ou ce genre de choses là quoi.
Non, mais surtout qu'en plus, on va se retrouver avec un phénomène qui finalement annihile, à mon sens, l'intérêt principal du truc, à savoir que on est d'accord que si tu fais évoluer une console, l'intérêt, c'est que tes jeux soient plus beaux et que t'en profites, etc.
Ouais.
Sauf que les joueurs PC connaissent ça très bien. Actuellement, on a plein de jeux qui n'exploitent absolument pas nos cartes graphiques. Et ça, pourquoi? Parce que il y a du matos moins performant, notamment les consoles, et que comme les mecs veulent pas se faire chier à faire un jeu comme par exemple le premier Crysis, si vous voulez, il était super bien optimisé quoi. Tout le monde s'est focalisé sur le fait que oui, pour le faire tourner à fond, il fallait un PC de tueur, mais n'empêche que quand tu mettais les settings moyens, t'avais déjà un jeu super beau qui tournait super bien avec un ancien hardware, tu vois. Ça, il y a aucun studio qui le fait aujourd'hui en fait. C'est-à-dire qu'en gros, t'as déjà un nivellement par le bas qui se fait, si tu veux, parce que il faut le vendre à un maximum de monde, le jeu. Donc finalement, est-ce que ça a un véritable intérêt de partir dans la course au hardware comme ça sur console? Moi, je suis pas persuadé. Hein.
Non, mais ça c'est, oui, ça c'est. Et en plus de ça, le quand tu arrives sur une fin de vie d'une machine, t'as un parc de jeux qui est assez conséquent. D'ailleurs, je pense que Rockstar a très bien joué le coup avec GTA V, par exemple. GTA V avait plus de 80 millions de Xbox 360, presque quasiment pareil de PS3 vendu dans le monde. Après, ils l'ont sorti sur PS4 et Xbox One, puis ensuite sur PC. Ils ont, pour moi, ils ont fait un truc, voilà, qui a permis d'avoir un total de jeux qui est assez monumental, quoi.
Bon, rien à rajouter, messieurs?
Non.
Non.
On va terminer sur la news trop lolo de la semaine. Mon cher Ben, pourquoi est-ce que tu veux nous parler de No Man's Sky? Je ne comprends pas.
Juste parce qu'on a la date de sortie. Et donc, le jeu va sortir cette année, le 22 juin, sur PS4 et PC. Donc voilà, parce que voilà. Il faut quand même rappeler.
Et sinon, c'est quoi le jeu?
No Man's Sky, la première fois qu'on a entendu parler, je crois que c'était en 2013.
Ouais.
Au VGX de 2013. Donc, ça, 3 ans après, ça y est, il va sortir, enfin.
Mmh.
Donc c'est juste voilà pour signaler ça. C'est peut-être con hein, mais c'est toujours un jeu qui m'attire à chaque news parce que j'ai envie de découvrir ce que c'est, je pense surtout, et que moi j'aime bien les jeux entre guillemets exploration. J'avais déjà dit ici que voilà j'avais aimé le dernier Fallout pour son côté exploration, et de ce qu'on en voit aujourd'hui, c'est un jeu pour l'instant il ne fait que ça en fait. C'est que de l'exploration, mais pour l'instant il y a rien d'autre. Donc moi c'est vrai que je suis toujours un peu hypé par le truc quoi.
Alors déjà la date que Ben vient de nous annoncer, prenez-la avec des pincettes,
ouais,
parce
ouais,
que
ouais.
Quand tu vois les retours
c'est ça, pour l'instant le jeu est pas du tout fini quoi.
Ouais bah il paraît que ça va pas du tout même. Donc déjà juin, bon on verra hein. Et ensuite oui mais c'est quoi ce jeu en fait? Enfin moi j'attends toujours qu'on m'explique hein, parce que concrètement, à part que le fait que visiblement il va faire la même chose que tous les jeux sans base qu'on connaît déjà, avec une jolie direction artistique. Ouais, enfin, moi, personnellement, pour le moment, je suis pas plus emballé que ça. Alors, je sais que là, j'ai le club des fans de Ark qui est dans mon podcast, mais qu'est-ce que vous attendez de ce jeu? Parce que j'ai l'impression que vous y avez déjà joué, en fait, si vous voulez, entre guillemets.
Ah non, non, moi c'est voilà, je suis attiré des vidéos, ce qu'on a vu, voilà, c'est le côté exploration, se déplacer de planète en planète, avoir des écosystèmes différents. Moi, pour l'instant, c'est surtout ça qui m'attire, parce que voilà, j'aime bien le côté exploration dans les jeux, quand ils sont, voilà, quand c'est joli et tout, comme typiquement, voilà, Fallout 4, moi, ce que je disais, hein, j'ai aimé le côté exploration, j'ai pas aimé le côté RPG, ni le reste, mais par contre, le côté exploration, voilà, me balader, découvrir des trucs, j'ai passé vachement de temps à faire ça.
Faut que tu joues à Xenoblade, Ben. Mais on en reparlera.
Ouais. Après, quand tu dis, je comprends pas ce qu'il y a à faire dans le jeu, il y a pas, enfin, je vois pas ce que tu veux dire par là.
Je sais pas, en gros, c'est tu te balades.
Ouais.
Mais il y a pas de but.
Tu récoltes des ressources.
Voilà.
Et, voilà.
Et tu dois rentrer chez toi, et c'est tout. Et
ben oui, voilà, sauf que le truc, c'est que si tu veux, au moins, dans un jeu comme Ark, par exemple, tu vois, t'as un truc qui est vachement important qui s'appelle la construction. Qui te permet d'établir ta base, etc. T'as rien de tout ça dans No Man's Sky.
Ouais, bah dans No Man's Sky, en fait, c'est un jeu où tu dois rentrer chez toi et faut peut-être pas en attendre autre chose, quoi.
Ouais, sauf que quand tu fais un truc comme ça, on est d'accord qu'il faut du coup qu'il y ait une partie survie qui soit importante. Sauf que là, la partie survie, pour le moment, on n'en sait pas grand-chose, tu vois, on n'en sait rien, en fait. Et pour le moment, j'ai juste l'impression que c'est se balader. Alors peut-être que c'est ça le concept.
Ouais, c'est ça. Moi, je pense que, franchement, honnêtement, ça doit être ça.
Mais pour le coup, pour moi, c'est un simulateur de marche pour le moment, quoi, si tu veux. C'est un simulateur de marche où tu récoltes des ressources pour ton vaisseau. Alors, quand même, non, il y a un truc qui m'intéresse dans le jeu. Ils ont repris une idée d'un jeu vraiment chelou auquel j'avais joué à l'époque, ça s'appelle l'Arche du Captain Blood. C'est-à-dire que, en gros, chaque autochtone aura un langage, si tu veux, il faudra que tu apprennes ce langage-là. C'est le seul truc qui m'attire dans ce jeu, en fait. Sinon, pour le reste, honnêtement, j'ai l'impression de voir un énième jeu sandbox. Alors, certes, il y a l'aspect, ouais, je décolle d'une planète et je vais dans l'espace, mais qui fait tout le reste moins bien que ce qu'il y a déjà sur le marché, en fait.
Mais peut-être que toi, tu n'es pas sensible à ce genre de jeu. L'exploration, peut-être que ça te parle moins qu'à Ben, par exemple.
J'ai passé 130 heures sur Xenoblade. J'ai rien de plus à dire. J'ai passé 130 heures sur Xenoblade, j'ai passé 2000 heures sur Morrowind. C'est des jeux qui sont essentiellement basés sur l'exploration, tu vois. Sauf que, en fait, moi, ce que je vois, enfin, déjà, la différence entre, par exemple, Xenoblade et celui-là, c'est que Xenoblade, c'est du fait main. T'as une narration par le décor, tu vois, il y a des trucs qui se passent. Là, c'est du procédural, quoi. Donc, du coup, l'exploration pour l'exploration comme ça dans le vide, ça m'attire pas plus que ça, quoi.
C'est exactement ce que j'allais dire. J'aime bien le côté exploration, mais il faut quand même qu'il y ait un minimum de but, un minimum de choses à faire. Si c'est juste se poser sur une planète, faire le tour, redécoller pour, avec trois ressources et repartir, je prendrais pas le jeu. Si il y a le côté exploration et que ça amène, voilà, une histoire, un vrai but, comme tu disais, pourquoi peut-être du crafting, pouvoir se faire des constructions, je sais pas, faire une base et pouvoir la défendre après, parce qu'on sait même pas s'il y aura d'autres, entre guillemets, des ennemis, enfin, on va sûrement rencontrer des gens, est-ce qu'ils seront agressifs ou pas avec nous
pour si, des ennemis, il y en aura, ça c'est sûr, mais en gros, si tu veux, tu vas arriver sur une planète, et l'idée, c'est que quand tu vas commencer à récolter des ressources, si tu récoltes trop de ressources, les autochtones vont devenir agressifs. Quoi.
Ouais, voilà.
C'est l'idée.
Mais bon, il faut pas que ça soit juste, voilà, se poser, récolter, savoir que tu peux te faire attaquer si tu fais trop. Pour moi, il faut quand même qu'il y ait un autre but pour que je puisse prendre le jeu. Si c'est juste ça, ça va pas m'attirer plus que ça. Ça sera sympa à regarder, mais je vais pas foutre 60 balles dans un jeu comme ça, quoi.
Parce que tu vois, Ark, quand même, enfin, t'as tout un système de craft, tu montres aux gens ta base, etc. Et en plus, les gens sont admiratifs parce qu'ils voient que le taf que t'as fait, c'est... Ouais. c'est un taf qui se compte en plusieurs heures, hein, n'est-ce pas, Mordren? et voilà, enfin, il y a un côté créatif dans ces jeux-là que je ne retrouve pas dans No Man's Sky, et c'est ça qui me fait peur, en fait. C'est-à-dire que tu n'as pas l'aspect survival que tu peux avoir dans certains jeux, et tu n'as pas non plus l'aspect craft que tu as dans d'autres, en fait. Et du coup, j'ai l'impression qu'il a le cul entre deux chaises et que son seul argument, entre guillemets, c'est regarder mon bel univers, quoi. Et c'est ça qui me fait peur, en fait. Moi, c'est vraiment ça qui me fait peur. C'est que finalement, les mecs aient passé tout leur temps sur leur moteur de génération procédurale et que derrière, t'as un jeu qui soit pas intéressant, quoi.
En fait, ce qui manque à la communication du jeu actuellement, c'est ce que nous a proposé Solus Project, en fait, dont on parlait il y a plusieurs semaines. C'est que Solus Project, pour le coup, effectivement, il n'y a pas de construction. Il n'y a pas de ce but-là, en tout cas, habituel des jeux de survie. Mais au-delà de ça, dans le côté exploration, t'as vraiment l'impression d'entrer dans un univers à mystère, en fait.
Voilà.
Et là, pour le coup, c'est ce qui manque à No Man's Sky, et on sait même pas s'il y aura un truc de ce goût-là, en fait. Et c'est ça que je reproche actuellement à la communication de No Man's Sky, c'est effectivement, ça a l'air impressionnant, tout ça. Ça a l'air assez jouissif, le côté j'entre dans ma planète sans aucun temps de chargement machin et tout, mais au-delà de ça, c'est vrai que pour l'instant j'ai du mal à me projeter dans le jeu en fait. Parce que oui, j'aime bien l'exploration, mais est-ce qu'au bout d'un moment, en fait, au bout de 4-5 heures, je vais pas me lasser? Juste parce qu'il y aura pas d'objectif final, au-delà du fait d'arriver au centre de la galaxie, je sais pas quoi. Donc c'est un peu... Je sais pas.
Sinon, la jaquette est jolie.
Mais encore une fois, tu vois, par exemple, on pense qu'il va y avoir des combats spatiaux, sauf que ils en parlent pas du tout, en fait.
Non, mais
ils le montrent pas.
Mordran a mis le point dessus, ils ont un gros problème de communication, quoi. On avait déjà parlé. C'est un jeu qui a été overhypé quand il a été présenté la première fois. Et depuis, en fait, on n'en apprend rien et la communication est un peu pourrie et je pense que ça peut lui faire défaut parce que ça se trouve, il y a des choses intéressantes. Alors peut-être qu'ils veulent pas communiquer parce qu'ils sont pas du tout prêts. Et qu'ils veulent pas se mettre encore plus dans l'embarras, entre guillemets. Mais c'est vrai qu'il y a aujourd'hui.
Alors à ce moment-là, t'annonces pas la date de sortie.
Voilà, exactement. Aujourd'hui, ils annoncent une date de sortie. Ou alors, voilà, ils se sont déjà dit, bon, mais on va mettre que quelques trucs et le reste, ça viendra après à base de mise à jour, quoi.
Ouais, mais après, pourquoi ce jeu-là, on en a beaucoup parlé? Parce que c'était lors de son annonce au VGX, il y avait que ça.
Il y avait rien.
Ouais, non, c'était ça. Et après, je pense qu'après, s'il y aurait eu d'autres annonces et tout ça, peut-être, on en aurait certainement parlé, mais pas autant. On aurait pas fait le buzz qu'il a fait.
Et je pense quoi? Je pense qu'ils étaient pas prêts à avoir autant de hype sur ce jeu, quoi.
Je pense aussi quand même que ce qui a fait la hype sur ce jeu au départ, c'est vraiment la promesse, quoi. C'est-à-dire que le côté j'embarque dans mon vaisseau, je vais de planète en planète, enfin oui, ça fait rêver. Ce qu'on pensait qu'il y aurait quelque chose d'autre derrière.
Exactement, que ça serait pas juste ça.
Le souci, c'est que pour le moment, on a l'impression qu'il n'y a pas autre chose. C'est ça le gros problème, quoi.
Ouais, sinon aussi, juste pour terminer sur quand même les gars de chez Hello Games, c'est que dans leur studio, il y avait quand même eu une fuite, une inondation qui avait bousillé quand même la moitié de leur travail. Et
c'est
peut-être pour ça aussi que voilà, le jeu, on en entend parler depuis un certain moment. Je me rappelle qu'ils avaient pas mal galéré pour essayer de rattraper certaines choses et puis qu'ils ont dû reprendre aussi beaucoup de choses depuis le début. Donc c'est un petit peu normal que le jeu traîne en longueur.
Ah non mais les gars, on est en 2016, faut arrêter, faut prévoir un peu tout ça, quoi. C'est pas possible de tout perdre parce qu'on a un problème chez soi, quoi. C'est...
Parce que je crois qu'il y avait eu c'était suite à une catastrophe naturelle, hein.
Non mais tu pètes ton ordinateur, il faut que t'aies des sauvegardes à côté, quoi. C'est juste pas possible de
Si tu veux, quand ça détruit tes ordinateurs ou ces sauvegardes.
Oui, non, mais normalement, si tu veux, quand t'es pas trop con, t'as une sauvegarde en cloud sur un serveur.
T'as une sauvegarde ailleurs que là où t'es, donc t'as toujours deux endroits différents, t'as tes trucs, quoi. Enfin, on est en 2016, on sait que c'est le genre de choses qui peuvent se produire facilement, hein. Enfin, il y a plein de boîtes qui ont coulé il y a des années à cause de ce problème comme ça. En 2016, t'as plus le droit, quoi. C'est juste interdit, quoi. Enfin, bref.
Là, c'est les informaticiens.
Ouais,
qui
non, mais voilà.
Bon. Allez, je vous propose qu'on passe maintenant au jeu du moment. Oh mon dieu. J'ai peur, monsieur. Donc, le jeu du moment...
Nous aussi, d'ailleurs.
Ouais, parce que moi, j'ai pas 3 heures devant moi, là, alors...
Donc, le jeu du moment, c'est un jeu qui était très attendu. C'est une exclusivité Wii U. Et c'est Xenoblade Chronicles X.
ブレイドとは神の言葉を超えた人工的な運命の解放者頭の文字を取ってブレイド
私はエルマあなた名前は
おおあの方をお迎えする器が今我が元に
地球を失ってそれでこんな星まで来たのに殲滅するのさそれが私たちブロースもしかしたら宇宙から消え去った方がいいのかもしれない
私らとお前らは共存なんてできないんだ
じゃあ僕たちはもう死んでいるってことですか
こいつは裏切り者だぞやめろルクザール
撃てよ
みんな、やめて！
幹細胞は駆除する。それがグロウスの定め。
あの悲劇、もう繰り返させはしない。
滅ぶべし！地
Kyojin!
Alors, donc, Xenoblade Chronicle X, c'est le dernier jeu de la franchise Xeno, n'est-ce pas? Alors, je rappelle, hein, Xeno, Xenogear, Xenosaga, et donc Xenoblade, dernièrement, les productions du studio Monolith, Monolith qui est particulièrement connu chez les fans de JRPG pour ses scénarios, n'est-ce pas? Hein, ils aiment bien les trucs un peu tordus, avec des termes tirés de la Bible, tout ça, enfin voilà, ils sont assez spéciaux. Et donc, un titre très très attendu. Pourquoi ? Parce que il avait une belle promesse en matière d'open world. Je vais vous la faire courte. Enfin, je vais essayer de la faire courte parce que, en gros, je pense qu'on a un minimum pour 20 minutes. Minimum. Donc, vous êtes les survivants de la race humaine, parce qu'il faut savoir qu'en gros, votre planète s'est retrouvée entre deux feux de race alien et qui s'est fait exploser au passage, hein, n'est-ce pas? Heureusement, pour une raison qu'on ignore, vous aviez des vaisseaux déjà tout prêts et tout, et vous avez réussi à vous enfuir au dernier moment. Alors, il y a plusieurs milliers de vaisseaux qui ont décollé de la Terre, mais en gros, vous êtes un des seuls apparemment qui a réussi à s'en sortir. Vous êtes tout seul, vous errez dans l'espace, et là, t'as les aliens qui te retrouvent, qui t'attaquent, et qui pètent ton vaisseau qui se crache sur une planète qui s'appelle Mira. Et là, donc, commence Xenoblade, à savoir que vous prenez en main la création d'un avatar. Une création qui est toute pourrie, qui sert pas à grand chose, hein, parce que franchement, les options sont assez limitées, hein, j'ai envie de dire. Je crois que c'est un des éditeurs les plus pourris que j'ai vu en matière de création de personnages dans un jeu vidéo, parce que, on va dire que pour faire un mec qui est pas une gueule de mutant, ça va être très très compliqué, quoi.
Est-ce qu'il est aussi pourri que celui de Dark Souls?
Il est encore plus pourri que celui de Dark Souls.
Ouais, chaud.
C'est quand même non, parce tendu. Que au moins, tu vois, Dark Souls, j'ai réussi à faire un personnage qui ressemblait à peu près à quelque chose. Le mien, là, franchement, j'ai galéré hein, pour faire un truc potable avec. Enfin, bref. Il se trouve que vous êtes un des survivants du crash et que vous êtes sauvé par une nana qui s'appelle Elma. Et finalement, au fur et à mesure que vous allez jouer, vous allez vous rendre compte que vous n'êtes pas vraiment le personnage principal de l'histoire et que le personnage principal de l'histoire, c'est Elma. Voilà. Donc là, je vous ai spoilé à peu près 80% du scénar du jeu. Et c'est l'intro du jeu. Donc, je préfère vous prévenir tout de suite. Si vous êtes fan de Monolith parce qu'ils produisent des putains de bons scénarios, ne jouez pas à Xenoblade. Pourquoi ?
D'accord.
Parce que, en gros, le scénar, c'est le début du jeu et la fin du jeu. Entre les deux, alors ouais, il se passe des trucs, mais comment dire ? Il y a beaucoup de choses que j'apprécie dans Xenoblade. Alors déjà, c'est un jeu qui est extraordinaire au niveau de sa map. C'est-à-dire que si vous êtes comme Ben et que vous adorez explorer, allez-y. Parce que vraiment, c'est une map fait main, où il y a des décors qui te racontent des choses, où tu prends plaisir à te balader, où... Je veux dire, j'y ai passé 130 heures, hein, donc si j'y ai passé 130 heures, c'est quand même que j'y ai trouvé un intérêt. C'est un jeu, si tu veux, où en plus de la map, tu as un background qui est plutôt intéressant, c'est-à-dire que tu as un univers un peu mystérieux, où tu vas croiser plusieurs races, et ces races vont, disons, plus ou moins évoluer au contact des humains. C'est-à-dire que, pour la faire simple... Tout au long de votre aventure, vous allez croiser différents autochtones ou même des extraterrestres qui sont crashés eux aussi comme par hasard sur cette planète avec vous. Et disons que vous allez faire alliance avec eux, que vous allez faire plein de petites quêtes annexes toutes pourries et que au fur et à mesure de ces quêtes annexes, ces races vont évoluer. Pour donner un exemple assez simple, il y a une race qui se reproduit entre guillemets en se démultipliant. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'ils meurent, si vous voulez, ils ont une espèce de rituel qui fait que, en fait, l'individu se divise en deux nouveaux individus.
Mmh.
Au départ, ils sont cinq. Et ce qui est très intéressant dans Xenoblade, c'est que par tes actions en tant que joueur, tu vas être amené à démultiplier le nombre de membres de cette race. Et c'est vraiment parce que toi, tu auras fait ces actions-là que le nombre de membres de cette race va augmenter, en fait, dans le jeu. Et ça, c'est vraiment l'aspect qui est très intéressant dans Xenoblade et qui est aussi assez en dents de scie, à savoir que d'un côté, tu as des quêtes qui sont extrêmement mal écrites la plupart du temps. Pour vous donner une idée, c'est l'exemple qui m'a le plus choqué. Bon, à un moment donné, on a une quête où t'as une nana qui est un peu raciste sur les bords. Vous voyez le bruit, les odeurs, tout ça. T'as cette nana, si tu veux, qui veut pas accepter un xénoforme, enfin un extraterrestre dans son magasin. Et en gros, le principe de la quête, pour la lui faire changer d'avis, c'est d'aller interroger trois pélos en ville qui vont te dire « Oui, les extraterrestres, c'est trop cool !» Tu vas aller voir la nana, tu vas lui dire « Ouais, non, mais t'as ces trois mecs-là, ils ont dit que les extraterrestres, c'est trop cool !» Et va faire « Oh, mais vous avez raison !» Ah, ah là, oui, là, d'accord. Je suis très désolé. Ah, je suis confuse. Ah, franchement, ok, j'ai dit qu'il sentait mal, tu vois. mais c'est ça, en plus, hein, c'est vraiment ça. Qu'il n'avait rien à faire dans mon magasin, etc. Mais en fait, vous avez raison, j'ai tort. Je suis désolé, madame. Venez rentrer dans mon magasin, tout va bien. Franchement, si ça marchait comme ça dans la vie, ce serait top.
Ah, tu m'étonnes.
Donc voilà, d'un côté, t'as des quêtes qui sont écrites avec les pieds. Même s'il y a quelques exceptions, je tiens à le dire, il y a des exceptions, mais c'est l'exception qui confirme la règle, quoi, si tu veux. Et de l'autre, tu as cet impact qu'a le joueur sur l'évolution du monde, et qui, moi, je trouve, est très intéressante.
Mais du coup, si tu disais que l'intérêt principal des Xeno, c'était le scénar, si t'enlèves ça, concrètement, il reste pas grand-chose, quoi.
Alors, je précise...
Enfin, hormis le gameplay.
Non, je précise une chose. Quand je dis Xeno, en fait, c'est surtout Xenogear et Xenosaga. Déjà, Xenoblade Chronicle, le premier, alors certes, il y avait un scénar, mais c'était pas un scénar extraordinaire. C'est un scénar qui faisait le job, quoi. C'était du shonen, quoi. Enfin, c'est le héros qui va sauver sa copine, voilà, tout ça. Bon, il y avait quelques twists assez intéressants, mais... Enfin, en tout cas, par contre, c'était un scénar qui faisait le job, quoi. C'est-à-dire que c'était plutôt bien rythmé, t'avais une narration tout au long de l'aventure, voilà. C'était plutôt bien fait. Le problème de ce Xenoblade Chronicle X, si tu veux, c'est que le scénar, il est un peu aux abonnés absents, quoi, en fait. Mmh. Et les rares passages où il y a du scénar, en fait, ils sont très mal racontés. Je vais prendre un exemple. À un moment donné, au début du jeu, tu croises ce que tu penses être la méchante. Sauf que non, en fait. Enfin, disons que c'est une sbire qui va être là, genre... durant les 2-3 premiers chapitres du jeu, je crois, et qui derrière, ben, va crever comme une merde au cours d'un combat avec toi, et va disparaître comme ça, en fait. Mmh. Alors oui, je suis désolé, spoiler, mais en fait, le personnage n'a aucune importance. Donc, voilà. C'est-à-dire qu'en gros, t'as le scénar qui avance, t'as une scène qui se passe, tu butes le perso, et genre, tu vois, en termes de mise en scène, tu sais, d'habitude, on te mettrait une cinématique, tu vois, où t'as la nana qui crève, qui parle, ou je sais pas, ou au moins tu la vois mourir, ou il se passe un truc. Non, là, c'est juste, t'as le Mikai qui explose, et t'as tes personnages qui se retournent, qui discutent entre eux, normal. Donc, tu vois, t'as ce genre de souci en termes de mise en scène.
D'accord.
Donc, ça veut dire que, déjà, il y a pas beaucoup de scénar, mais en plus, les passages où il y a du scénar, c'est vraiment pas très intéressant. En tout cas, dans la quête principale. Parce qu'il faut savoir une chose, en fait. C'est que, mis de rien, il y a, dans les quêtes secondaires, 2-3 pépites qui sont assez intéressantes. Mais, le problème, c'est qu'encore une fois, ces pépites, elles sont cachées au milieu d'un océan de quêtes qui sont vraiment pas super bien écrites. Et surtout, comment dire? Même ces passages-là qui sont plutôt bien faits, t'as toujours des soucis de mise en scène, en fait. Et ça, c'est vraiment lié au fait que on a un avatar qui est muet et que les rares choix, parce qu'il y a des moments où on te donne des choix, en fait, et où ces choix vont vraiment impacter l'évolution du jeu. Et ça, c'est un des points forts du jeu, c'est-à-dire que vraiment, t'as certains choix qui sont significatifs et qui vont vraiment impacter l'avenir des races sur Myra. Mais par contre, t'as des fautes de goût en termes de mise en scène. Vous savez, dans The Witcher, par exemple, quand tu as des dialogues, t'as la musique qui continue, tournée en arrière-plan, t'as Geralt qui reste pas statique, tu vois, il se passe des trucs. Mmh. Là, à chaque fois qu'on te donne un choix, t'as un putain de pop-up qui arrive au milieu de l'écran, t'as la musique qui se coupe, et donc tu dois choisir entre A et B en général.
D'accord.
Et je sais pas si vous imaginez, vous avez une scène super dramatique, tu vois, il se passe un truc, t'as une musique géniale qui est en fond, et là t'as un putain de HUD dégueulasse qui arrive en plein milieu de ton écran, qui coupe complètement la narration, et on te dit choisir entre A et B.
D'accord.
Est-ce que vous pensez pas qu'il y a un souci en termes de mise en scène?
Ça me fait un peu penser au choix binaire de Telltale. sans le HUD, quoi.
Oui, alors ça, par contre, je tiens à insister. Ils sont binaires, certes, mais contrairement à Ted Lasso, ils ont un impact. Hein.
Bon, bah tant mieux.
Et c'est ça, moi, qui, si tu veux, qui a fait que malgré tout, j'ai continué à jouer à Xenoblade Chronicles X, et qui fait que, malgré ça, je recommande ce jeu à des gens qui aiment la balade, des gens comme Ben, donc. C'est-à-dire que c'est un jeu où vraiment... Alors, ça a pas l'air comme ça, mais tes choix vont avoir un vrai impact sur l'histoire, quoi.
C'est justement, moi, la question que j'avais tout à l'heure quand t'en avais parlé. C'est, voilà, quels sont les impacts? Comment ça se passe? Par exemple, tout à l'heure, tu parlais de la survie d'une race. Est-ce que dans ta partie, il y en a que t'as réussi à faire survivre, d'autres qui se sont éteintes, ce genre de choses, ou ça va pas aussi loin?
Alors, je vais essayer de vous expliquer le concept. Pour ceux qui ont joué à Xenoblade premier du nom, vous le savez, dans Xenoblade, il y avait ce qu'on appelait le sociogramme. C'est-à-dire que, si tu veux, c'est un peu comme, pour ceux qui font de l'informatique, tu sais, quand tu modélises une base de données, quoi. C'est-à-dire que t'as ce personnage, t'as un trait qui va vers tel autre personnage, on te dit il a cette relation avec ce personnage-là, etc. Et en fait, ce qui se passe, si tu veux, c'est que les mecs ont été super ambitieux. À savoir que, ils se sont dit, non, nous, on est trop forts chez, chez Monolith, on va te créer une chier de PNJ, en fait. Mais vraiment, il y a une centaine de PNJ dans ce jeu, quoi. Et ces PNJ, plutôt que de disparaître à la fin de la quête, un peu ce qu'on a dans des RPG occidentaux comme The Witcher, par exemple, ils vont évoluer tout au long de l'histoire avec toi, en fait. C'est-à-dire que finalement, tu as un scénar principal où tu as assez peu d'impact, et tu as tout un aspect secondaire, entre guillemets, où là, tu vas avoir un impact sur l'évolution de l'univers. T'as 100 PNJ, que tu vas croiser au fil de ton aventure, et ces PNJ, tu vas pas les croiser une fois. C'est-à-dire, tu vas faire plusieurs quêtes avec eux. Et au fil de ces quêtes, des fois, t'en as un, par exemple, qui va crever. Parce que t'auras fait la mauvaise décision. Et l'idée, vraiment, c'est que t'as un univers vivant, où t'as des personnages qui vont évoluer à ton contact. Et c'est ça que j'ai trouvé super intéressant.
C'est génial, Xenoblade.
Mais le problème, si tu veux, c'est toujours la, enfin. En gros, ils ont été trop ambitieux.
Ouais.
Ils ont essayé de faire un truc. Vraiment, ils ont essayé. C'est-à-dire que, vraiment, il y a certains personnages que j'ai recroisés sur d'autres quêtes où je me suis attaché à eux, quoi. En plus, il y a des quêtes qui sont assez drôles, mine de rien, toutes des quêtes avec les nompons, elles sont vraiment, il y en a certaines qui sont hilarantes, genre une open qui, non, on va pas spoiler, mais enfin, il y a vraiment des passages qui sont, où je me suis bien marré. Et l'idée, vraiment, c'est que t'as des personnages qui vont réussir à s'accomplir par ton action à toi, en fait. Et vraiment, ce que j'ai adoré dans ce jeu, c'est cette idée que tu arrives sur Myra, c'est une planète inhospitalière que tu vas explorer, et quand tu vas croiser des gens, eh ben ces gens, ils vont t'accompagner tout au long de ton aventure, et ils vont évoluer, quoi. Alors même si c'est pas forcément des évolutions majeures, il y en a quelques-unes. Mais derrière, t'as aussi des petites évolutions mineures comme ça, qui te donne vraiment l'impression d'avoir un impact sur l'univers. Alors certes, ces évolutions sont en général très mal racontées, mais mine de rien, j'ai trouvé qu'il y avait une certaine satisfaction qu'on retirait par moment, quoi.
En fait, concernant le système de combat, parce que tu as dit, ouais, c'est un jeu super intéressant, ceux qui sont intéressés par tout ce qui est exploration, etc. Mais moi qui aime bien les JRPG, par exemple, pour tout ce qui est aspect narratif et aussi système de combat, est-ce que là, si j'achète Xenoblade Chronicles X, est-ce que moi j'y trouverais mon compte dans ce jeu-là, ou bien c'est pas du tout un jeu qui entrerait dans une catégorie classique du JRPG, on va dire?
Alors, le système de combat, il est assez spécial. En fait, si tu veux, j'ai un problème avec le système de combat. C'est-à-dire que sur le papier, il est très intéressant. Enfin, en fait, l'idée du système de combat, c'est que tu as des ennemis qui ont différentes parties du corps, si tu veux. Et que, par exemple, si tu détruis certaines parties du corps, ils vont plus pouvoir utiliser certaines capacités. Ou ils vont être plus faciles à blesser. Par exemple, si tu détruis la carapace d'une bestiole, tu vas faire plus de dégâts, ce genre de choses. Le problème de ce système de combat, c'est que, autant il est très intéressant, il est super dynamique, en plus, autant, en fait, le jeu est, je trouve, tellement facile que, finalement, tu l'exploites pas vraiment. Et c'est le gros souci que j'ai avec le système de combat de Xenoblade, c'est-à-dire que, alors je me suis bien amusé, hein, mais j'ai pas eu le sentiment, tu vois, de l'avoir vraiment compris, au fond. Et j'ai vraiment eu le sentiment plutôt d'avoir pas mal bourriné, en fait. Alors il y a certains trucs, bon, il y a des trucs de base que tu comprends assez vite, hein, genre que quand t'as une attaque qui marche même par derrière, bon, bah tu vas attaquer par derrière. Sauf que ça, tu vois, c'est la base du système. Et les subtilités, j'ai vraiment pas la sensation que c'est un système qui m'a poussé, à un moment donné, en tout cas en termes de difficulté, à exploiter les subtilités du système de jeu, quoi. Après, c'est amusant, ça se laisse jouer, mais clairement, pour moi, c'est pas le gros point fort du jeu, quoi. Pour moi, très clairement, outre le fait que ben tu vas faire évoluer l'univers, etc., et que voilà, c'est quand même assez plaisant, le point fort du jeu, c'est l'exploration. Et ça, l'exploration, on peut dire ce qu'on veut, ils ont fait un truc qui, pour moi, est extraordinaire. Les décors sont, enfin, sublimes, et surtout, tu as une graduation dans, comment dire, dans l'exploration, c'est-à-dire qu'au début, tu es à pied, puis après, tu vas choper les mécas, ce qui va complètement changer l'échelle du jeu, en fait, mais vraiment, et tu sens que la map a été conçue pour explorer ces différences d'échelle, quoi, et puis après, tu as le vol. Et c'est ça vraiment qui est extraordinaire dans ce jeu, c'est que tout au long de l'aventure, l'exploration va se renouveler, quoi. Au début, tu galères un peu, t'es à pied, etc. Y a certains points que t'essayes d'atteindre, mais tu te rends compte que c'est pas possible. Et puis, dès que tu débloques le méca, t'essayes de retourner sur ces points-là, tu débloques de nouvelles zones, etc. Et puis, dès que tu débloques le vol, alors là, c'est l'orgie, ça y est, c'est la fête, je peux aller où je veux, et c'est magique, quoi. Et il y a plein de coins qui sont cachés dans ce jeu. Et la map, mais c'est un modèle de finition comme j'en ai rarement vu, quoi. Pour moi, c'est du niveau d'un Skies of Arcadia, quoi. C'est-à-dire que, enfin, pour moi, Skies of Arcadia, c'est la référence en la matière. C'est-à-dire que vraiment, il y a toujours quelque chose à découvrir dedans. Le problème, si vous voulez, et c'est là que j'avertis ceux qui détestent, par exemple, les MMORPG.
Moi.
Donc, ce jeu n'est pas fait pour toi, je te le dis tout de suite.
Ok,
à salut. À savoir que Xenoblade Chronicles X, c'est un jeu qui est énormément basé sur les quêtes FedEx, sur les kill tasks. C'est-à-dire qu'en gros, tu es le larbin de service. va là-bas, merci mon chien, va tuer ça, merci mon chien. Enfin, c'est ça, hein. C'est clairement c'est ça. Donc si vous n'aimez pas les MMO, bon, c'était déjà le défaut du premier, hein, mais là, si tu veux, c'est encore plus marqué, parce que au moins dans le premier, t'avais un scénar principal qui te tenait par la main tout le long de l'aventure. Là, dans Xenoblade Chronicles X, il y a vraiment des moments où t'es largué, quoi. C'est-à-dire que pour débloquer la prochaine quête de la mission principale, par exemple, on te dit il faut que tu aies exploré 50% de tel continent, par exemple. Et pour explorer, ah oui, c'est pas compliqué, hein. Soit tu es voilà, tu te balades. Pour alors, il y a un système dont j'ai pas parlé, mais en gros, si tu veux, sur ton gamepad Wii U, t'as la carte du monde qui est divisée en hexagones. Et en fait, t'as certains endroits où tu vas pouvoir poser ce qu'on appelle des sondes. Et ces sondes, en gros, elles vont te permettre soit d'extraire des minéraux, soit de gagner de l'argent, en fait. Et surtout, quand tu vas les poser, ces sondes, elles vont t'indiquer ce qu'il y a tout autour. S'il y a une quête annexe, elle va être indiquée sur la carte.
Ah, c'est comme dans Assassin's Creed, quand tu montes au sommet des toits, là.
Non, c'est pas tout à fait pareil, parce que, comment dire... J'ai pas joué dernier, donc ça se trouve je dis une connerie, mais en gros, t'as aucune difficulté à monter sur les tours, en général, dans Assassin's Creed.
Ah non, t'appuies sur R1, tu montes.
Dans Xenoblade, si tu veux, l'idée qu'ils ont eue, c'est que déjà, t'as des sondes que tu ne peux pas poser parce que t'as pas le niveau, en fait, suffisant pour les poser. Et t'as d'autres sondes qui ne sont carrément pas accessibles à cause du relief. C'est-à-dire que si t'as pas le méca pour y aller, tu pourras pas les poser. Parce qu'elles sont pas accessibles. C'est juste dans une zone où t'as le relief qui est tellement accidenté que tu peux pas y aller à pied, quoi. Et même, t'as d'autres sondes, par exemple, tu peux pas y aller tant que t'as pas le vol aussi. Et en fait, c'est vraiment l'idée qu'ils ont eue pour te pousser à explorer aussi. C'est-à-dire qu'il faut que tu poses tes sondes partout dans Mira, quoi. Et y a certaines sondes qui sont vraiment pas évidentes à trouver, quoi. Genre, tu vois, t'arrives, t'es sur la zone où il y a la sonde, tu dis, mais putain, c'est bizarre, je suis juste au-dessus, je la vois pas, quoi, cette putain de sonde. Et en fait, tu te rends compte que il faut aller, genre, sur la plage qui est à 2 km, tu vois, longer la plage, trouver une grotte qui va sous terre, et là, sous terre, en fait, t'as la sonde qui est planquée là. Donc, c'est-à-dire que t'as beau avoir la sonde qui est marquée sur la carte, si tu veux, tu vas pas la trouver comme ça, hein, faut vraiment explorer. Et c'est vraiment l'idée qu'ils ont eue, si tu veux, pour te pousser, pour avancer, quoi. Le problème, c'est que derrière ça, tu te tapes plein de quêtes FedEx à la con, quoi.
Donc du coup, t'as fait le tour du point fort et des points faibles, mais est-ce que tu le conseillerais, en fait, ce jeu? Parce que j'ai quand même l'impression qu'il y a pas mal de points faibles.
Bah, comme je l'ai dit, je le conseille aux fans d'exploration. Je pense que Ben va beaucoup s'amuser dessus, par exemple.
Mais en fait, moi, j'ai plus l'impression que les points faibles, en fait, ont des points faibles rédhibitoires pour ceux que ce genre de choses-là sortent par les yeux. Mais au contraire, les gens qui n'en prennent pas compte, C'est pas comme si le jeu était mal fini, buggé, enfin ce genre de choses là quoi. C'est un jeu qui est tout à fait jouable et tout ça. Et après c'est juste une appréciation en fait du genre ou pas, qui peuvent mettre des freins à certaines personnes dont moi. Je pense qu'il y a plein de personnes qui acceptent le fait d'avoir des quêtes FedEx et tout ça, qui s'en foutent un petit peu, que le scénario soit un peu moins profond que par rapport aux autres épisodes de la série. Et pour qui ce genre de jeu là leur conviendra parfaitement en fait.
Alors après il y a un autre aspect qui est très intéressant en jeu, c'est le côté méca. Vraiment customiser son méca, enfin c'est un vrai plaisir. Enfin si tu veux, le truc c'est que, comment vous expliquer ça, c'est un jeu qui est super riche en fait, parce que Morin dit que j'ai exploré tous les points, mais en fait c'est pas du tout vrai, hein. J'ai pas évoqué le dixième de ce que je devrais dire sur ce jeu, mais sinon on y est encore dans 3 heures. Le truc c'est que t'as plein de mécaniques dans ce jeu en fait. Je vous ai parlé des sons, t'as les mécas, enfin il y a plein de trucs à faire. Le truc c'est que ça fait très MMO quoi. Et du coup en fait je pense que c'est un jeu qui a réservé à ceux qui ont déjà joué à un MMO, que ça a pas dérangé quoi en fait, qui sont pas rebutés par les mécaniques d'un MMO. Parce que vraiment il y a des mécaniques, mais tu dis c'est un MMO en fait quoi. Enfin ça, en tout cas c'est un MMO tel qu'ils sont conçus actuellement. C'est-à-dire que en gros, enfin tu te balades sur une carte et tu fais que des quêtes FedEx quoi. Et c'est vrai que ça, si tu veux, si vraiment tu n'aimes pas ça, mais c'est même pas la peine d'aller sur Xenoblade, quoi. Parce qu'en plus, t'as même pas le scénar principal qui va te tenir en haleine tout le long de l'aventure, ce que faisait assez bien le premier. Là, vraiment, si tu te mets pas à fond sur l'aspect exploration du jeu, tu passes complètement à côté, à mon sens, quoi. Parce que sans l'exploration, tu passes à côté de certaines quêtes annexes qui sont plutôt intéressantes et qui font évoluer les races du jeu. Sans l'exploration, tu découvres pas des coins cachés de la map qui sont vraiment, enfin, la modélisation est extraordinaire. T'as une narration par le décor. Enfin, il y a des trucs vraiment qui se passent quand tu explores, quoi. Bref, si tu ne supportes pas les kill tax et les kill FedEx, tu vas passer à côté de plein de trucs qui sont intéressants dans le jeu, en fait. Alors, dernier point pour moi qui pose problème aussi par rapport à la narration, c'est la fin du jeu. Pour moi, elle est complètement ratée et elle est assez symptomatique de l'état dans lequel, à mon avis, a été bouclé ce jeu. À savoir que, alors qu'on a eu une aventure, si tu veux, où certes on n'était pas le personnage principal, mais au moins on avait la main sur notre personnage à nous, et mine de rien quand même, on a fait évoluer pas mal de choses dans le monde de Mira, quoi, on se retrouve avec une fin, où notamment il y a 2 passages, si vous voulez, où là, on n'a plus du tout la main sur notre personnage, et où notre personnage, qu'on contrôlait jusque-là, se met à prendre des décisions tout seul. Genre, par exemple, il décide de prendre le parti d'un personnage, tu vois, alors qu'on lui a rien demandé, et que le fait de prendre le parti de ce personnage, ça change assez significativement la tournure que pourrait prendre le scénario, quoi. Par exemple. Ça m'a sorti complètement du jeu, ça, par exemple.
Est-ce que après ça, c'est pas par rapport au choix que t'as fait dans le jeu, peut-être
Non.
Justement, j'allais venir à ça. Est-ce que le fait, t'as dit qu'il y avait plein d'interactions avec les PNJ, est-ce que ça change la fin du jeu ou pas du tout?
Oh, pas du tout. Okay. Non, mais encore une fois.
Qu'une fin, quoi.
T'as 2 aspects dans le jeu. T'as le scénar principal sur lequel t'as 0 impact parce que c'est pas toi le perso principal.
Ouais.
Ah mais très clairement, c'est pas toi le perso principal, hein, je le dis tout de suite, c'est pas vous le perso principal, vous êtes le mec qu'on appelle pour nettoyer le truc, hein. Mais sinon, c'est pas toi qui prends les décisions. Alors si, tu as une influence sur la fin, c'est-à-dire que, disons que dans les dernières scènes du jeu, il y a un certain nombre de personnages qui se ramènent, et ces personnages, si tu les as pas débloqués, ben ils seront pas là,
ouais.
En gros. Parce qu'il faut savoir qu'il y a un autre aspect dans ce jeu qui est assez intéressant, c'est que, en plus de la centaine de PNJ dont je vous ai parlé, t'as plein de personnages que tu peux enrôler dans ton équipe à toi, en fait. Et ces personnages, ils ont tous une histoire. Alors certes, c'est pas toujours très bien raconté, mais par contre, ils ont tous une évolution que je trouve assez intéressante, et ils ont tous une histoire personnelle. En fait, tu sais, c'est un peu les quêtes perso à la Mass Effect, quoi. T'as un système de cœur, genre quand t'es à 5 cœurs, t'es au max, quoi. Et en fait, quand t'arrives à 2 cœurs, par exemple, tu débloques une quête annexe avec ce personnage.
Ouais.
Alors certes, ça fait très artificiel parce qu'en gros, à chaque fois, tu vas prendre une décision selon comment se place la moralité du personnage, il va t'aimer plus ou moins, tu vois. C'est-à-dire que, par exemple, imaginons, t'as un personnage qui est assez droit dans ses bottes, donc du coup, si toi, tu es assez droit dans tes bottes, dans tes décisions, t'as un cœur qui va popper à chaque fois que tu vas prendre une décision qui va dans ce sens, quoi. Et en gros, l'idée, c'est que tu vas augmenter ta jauge d'affection avec ces personnages-là. cette jauge d'affection, elle a un double impact, c'est-à-dire que d'un côté, ça va augmenter le nombre de combos que tu peux faire avec ces personnages-là durant les combats, et de l'autre, ça va débloquer donc des quêtes annexes, genre quand t'as deux cœurs, t'as une quête annexe, quand t'as trois cœurs, t'as une nouvelle quête annexe, etc. Du coup, t'as ces personnages-là qui potentiellement seront présents ou non à la fin du jeu en fonction des choix que tu as fait. Mais tu vois, ça c'est assez grisant parce que tu te dis, ah ouais, ces mecs ils sont là parce que je les ai aidés à accomplir leur destin et tout, ils sont avec moi, allez les mecs on y va et tout. Et ça c'est assez plaisant. Par contre, la toute fin, vraiment là où tu prends les décisions vraiment importantes où ça a un impact sur l'histoire, mais t'es un touriste hein. Franchement, tu serais pas là, ça serait la même chose hein. Alors et c'est ça qui m'a un peu dégoûté, si tu veux, c'est-à-dire que le combat contre le dernier boss, c'était genre ultra épique et tout. T'as tous mes potes qui étaient par terre. Mon perso, tu vois, c'était genre le tout petit mec, tu vois, qui est face à un machin immense et qui se bat à l'arme blanche avec sa bite et son couteau, tu vois. Il est quasiment mort et tout. Il y a un combat super épique. Ça se termine. Et là, scène de fin, mon perso est un touriste. Mais vraiment, quoi. C'est-à-dire que t'as les persos qui ont, disons, du corps dans l'histoire. Ils discutent entre eux, tu vois. Et t'as ton perso qui est là, mais t'as l'impression que c'est un gros con, PNJ lambda, tu sais pas trop ce qu'il fout là, et c'est un peu décevant, quoi, on va dire. Parce que je veux bien ne pas être le personnage principal, mais quand même, je sais pas, je m'attendais à ce qu'il y ait un minimum d'interaction, quoi, tu vois, quand même. Et c'est pour ça vraiment que, je vous le dis, ne jouez surtout pas à Xenoblade pour son scénario, et jouez à Xenoblade Chronicle X pour découvrir son univers.
Mais c'est marrant parce qu'il y a plein de points que t'évoques qui me font passer au dernier Dragon Age, en fait. Tout le côté quête FedEx, MMO, le côté exploration, le côté relation avec les autres personnages, c'est vraiment, et c'est moi, c'est ce qui m'avait plu dans le dernier Dragon Age, donc
moi, je pense que ça va te plaire, Ben, hein.
Ah, mais faut que j'achète une Wii U, quoi.
Après, encore une fois, ce jeu, mais pff, il a tous les défauts d'un MMO, en fait. C'est-à-dire que vraiment, il y a des passages, enfin, ça te rend fou parce que, en termes de conception, si tu veux, tu sens que ce jeu, il fait tout pour gagner de la durée de vie artificiellement, quoi. Va là, fais ci, fais ça. Quand tu veux recruter un personnage dans ton équipe, je rappelle, des personnages, t'en as une dizaine, hein, genre, tu vois. Et le truc, c'est que tu peux pas aller, genre, dans un menu, allez, je dégage ce personnage-là, et je mets un autre. Non, non, non. C'est genre, tu vois, le personnage, il a un emploi du temps, hein. Et pour récupérer le personnage dans ton équipe, tu sais qu'à telle heure, il est à tel endroit, et donc il va falloir aller là-bas pour le mettre dans ton équipe et dégager un autre perso. Et mine de rien, tu vois, ce genre d'aller-retour, si j'ai fait 130 heures de jeu, c'est pas parce que le contenu est absolument gargantuesque, hein. Je pense que, franchement, si on supprime tous les allers-retours qu'il y a dans ce jeu, on divise la durée de vie par deux, hein. Facile, hein.
Ah ouais. Mais quand tu dis qu'il a un emploi du temps, c'est-à-dire que... t'es en plein combat contre un boss, il te lâche et tout pour aller retourner à la basserie.
Ah non, 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 quand je dis qu'il a un emploi du temps, c'est-à-dire que quand il est pas dans ton équipe.
Ah, d'accord, ouais.
Si tu veux. Quand il est pas dans ton équipe, il fait sa vie. C'est-à-dire que, à telle heure, il va se trouver à tel endroit de la map, à telle heure, il va être parce qu'en fait, si tu veux, t'as un système où, genre, journée, soirée, machin. Voilà.
Et sur la map, c'est indiqué au moins où est-ce qu'il est ou pas, ou bien tu dois savoir toi-même où est-ce qu'il est.
Alors, c'est très spécial parce qu'en fait, si tu veux, t'as les personnages principaux, je crois, qui sont indiqués. Mais par exemple, les personnages qui ont été ajoutés dans les DLC, ouais, par la suite au Japon, ils sont pas indiqués sur la map, par exemple.
Ok.
Et bon, au fur et à mesure, tu sais où ils sont, hein. Mais c'est quand même assez casse-couille. Et surtout, ça fait perdre du temps pour rien. Parce que du coup, à chaque fois, tu dois... Alors certes, c'est un jeu où tu te déplaces assez facilement, parce que tu peux utiliser le gamepad pour dire « je vais me déplacer là, je vais me déplacer là, je vais me déplacer là », tu vois. Ça, mais mine de rien, quand même, ça fait plein d'allers-retours. Et franchement, je suis sûr, mais... tu retires tous les allers-retours à la con qu'il y a dans ce jeu qui ne servent à rien. Tu divises la durée de vie par deux, ça, j'en suis persuadé, quoi.
Et au moins, est-ce que entre tous ces allers-retours, ça va, les 35 changements sont pas trop longs?
Ça va. Alors, par contre, tu sens que c'est un jeu qui fait souffrir la Wii U, quoi.
À surchauffe.
C'est-à-dire que le lecteur CD, il tourne. Et puis, je précise, j'ai installé les extensions qui réduisent les temps de chargement. Mais par contre, ah oui, oui, non, une précision. Les temps de chargement sont courts si vous installez les 20 gigas de données sur votre disque dur qui les réduit, hein. Donc, si vous avez une Wii U 8 gigas déjà, bonne chance.
Bah, disque dur externe.
Mais tu vois, ça aussi, c'est intéressant. Mais en fait, ce jeu, pour moi, il est kafkaïen. C'est-à-dire que d'un côté, j'adore l'aspect évolution de l'univers, etc. Et de l'autre, il y a plein de trucs que je méprise dans ce jeu, quoi. Mais vraiment, quoi. Le côté aller-retour, il m'a gonflé par moments. En plus, il y a des trucs incohérents. C'est-à-dire que il y a des quêtes qui sont indiquées sur la map, tu vois. Il y en a d'autres qui ne le sont pas indiqués, et tu sais pas pourquoi. Par contre, ce qui est intéressant, je trouve, c'est l'aspect aussi... Mais les PNJ aussi, ils ont un emploi du temps, tu vois. Et genre, telle quête annexe, elle apparaîtra sur la map que si tu croises ce PNJ à telle heure.
Ah ouais. Ça fait un peu penser à Majora's Mask avec l'emploi du temps du village, là.
Voilà.
Sauf que dans Majora's Mask, ils étaient à tout péter, une quarantaine de personnes, ils étaient pas autant.
Voilà. Et en fait, pour résumer, Xenoblade, c'est un jeu super ambitieux, qui avait plein d'idées. Moi, il y a un truc que j'ai regretté que ça soit pas exploité, c'est qu'à un moment donné de l'histoire, si tu veux, tes actions vont amener à la construction d'un bâtiment sur la carte. Au départ, moi, je me suis dit, putain, c'est génial. On va participer à la construction de Myra. New LA va s'agrandir. Grâce à nos actions, tu vois, t'as de nouveaux bâtiments qui vont popper et tout. On va vraiment avoir l'impression d'influencer l'évolution du monde. Sauf que ça, tu vois, c'est genre... Le changement de la carte, je crois que ça doit se passer deux fois dans le jeu, ce truc. Et derrière, c'est pas du tout exploité. Alors que, en termes de gameplay, ça aurait pu être très intéressant. Et en fait, mon sentiment, si tu veux, avec Xenoblade Chronicles X, c'est que ça aurait pu être un très grand jeu, en fait. Mais que, par faute de moyens, par faute de temps, ils n'ont pas pu aller au bout de leurs idées. Et finalement, on se retrouve juste, entre guillemets, avec un jeu qui est à recommander aux gens qui aiment l'exploration et pas au reste, quoi.
Et aussi, je pense aussi parce qu'ils avaient les yeux plus gros que le monde en mettant tout ce contenu-là. Peut-être que, voilà, s'ils auraient été guidés dans une meilleure direction, peut-être qu'on aurait pu avoir un jeu d'exception, en fait.
Bah, à mon avis, c'est pas question d'être guidé dans une direction, c'est surtout une question que la Wii U est en train de crever, qu'ils pouvaient pas se permettre de continuer à développer le jeu, et que surtout, à mon avis, le pognon qu'ils ont dû mettre dans ce jeu, Nintendo a dû dire à un moment, vous êtes bien gentils, les mecs. Mais maintenant, le jeu, on va le sortir, quoi. Parce que vraiment, c'est le sentiment que j'ai, quoi. C'est-à-dire que, à mon avis, pour aller jusqu'au bout de leurs ambitions, entre guillemets, je pense qu'il aurait fallu au moins un an de dev en plus, quoi. Mais par contre, tu vois, je tiens à préciser une chose, c'est pas non plus un Assassin's Creed Unity où t'as un jeu qui est pas fini. Il y a un sentiment d'inachevé, mais ce qui est présent est bien fait, hein.
Ouais, t'as l'impression juste qu'ils ont pas exploité les possibilités jusqu'au voilà. bout, quoi.
Un peu comme MGS5, quoi, en fait.
Voilà, c'est un jeu qui aurait pu être extraordinaire et qui est juste vraiment sympa pour les gens qui aiment explorer, quoi.
Ouais.
C'est pour ça que je le recommande à Ben, par exemple, parce que je le recommande pas à toi. Parce que Ben, justement, il me dit qu'il a apprécié Dragon Age Inquisition et je pense que pour le coup, ça peut être une expérience qui lui plaît, alors que toi, je sais que t'aimes qu'il y ait un scénario, déjà, alors pas forcément extraordinaire, mais au moins qui t'accompagne, quoi.
Ouais, tu sais, le truc de base, la quête initiatique, quoi.
Voilà. Il y a vraiment tout un tas de défauts. Alors, quand j'en parle de ces défauts, alors il y en a certains, on est d'accord, ils sont majeurs, hein. L'écriture, par exemple, c'est une catastrophe, enfin, ce genre de choses. Mais encore une fois, il y a des côtés qui contrebalancent ça, en fait. En fait, ce jeu, t'as envie de l'aimer, quoi. Enfin, je sais pas si ça se ressent.
Ça se ressent quand même, parce que...
Ce jeu, j'ai envie de l'aimer, quoi. Il y a plein de trucs qui me plaisent dans ce jeu, mais d'un côté, je me dis, mais putain, mais il y a tellement de problèmes à côté, quoi. Il y a tellement de soucis qui te disent, mais merde, les mecs, vous aviez de l'or entre les mains, quoi. Vous aviez moyen de faire un jeu qui serait resté culte dans l'histoire des JRPG. Et finalement, vous avez juste fait un jeu qui est bien, quoi, mais... qui est bien, mais qui a plein de défauts qui sont casse-couilles, avec un C majuscule, quoi. Enfin, voilà, je vais m'arrêter là, je pourrais encore passer 3 heures à vous parler des mechas, de l'exploration, etc. Mais, en gros, voilà, si vous aimez l'exploration, que vous avez déjà joué à des MMO, et que ça ne vous a pas rebuté, en gros, si vous avez joué à FF14, je pense que vous passerez un bon moment. Et une dernière remarque. Ce qui aurait été pas mal aussi, c'est un vrai système de boss. C'est-à-dire qu'en gros, t'as des boss que tu peux buter sur la carte si tu veux. Mais quand t'as joué à FF14, où t'as des arènes de boss, si tu veux, où t'as des différentes phases de boss qui sont vraiment super bien conçues et tout, et que t'arrives sur Xenoblade Chronicles X, où c'est quand même pas mal de bourrinage, c'est assez décevant à ce niveau-là. Voilà. Bon, messieurs, je vous propose de fermer le rideau.
Ouais.
Ouais.
J'ai passé assez de temps sur le jeu, je pense. Alors, désolé pour ce test confus. Si vous voulez, c'est un jeu, je sais pas par quel bout le prendre, parce qu'il y a tellement de choses à dire dessus, en fait, que c'est assez compliqué, quoi. Bon, en tout cas, j'espère que vous avez compris ce qu'était ce jeu, et que pour ceux qui ne sont pas rebutés par l'aspect MMO, je vous ai donné envie d'y jouer. Voilà. Allez, rendez-vous la semaine prochaine. Ciao à tous.
Salut.
Salut.
Déjà que j'ai pas aimé FF12 à l'époque, alors celui-là... Allez, ciao.
Thank you.